autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous demander si la science rend heureux. Tiens donc, et si on posait la question aux chercheurs sur ce qui fait le sel de leur vie? C'est la belle idée de Geneviève Anoury, auteure et documentariste scientifique, qui vient de publier « Savoir, penser, rêver » aux éditions Flammarion, les leçons de vie de 12 éminents scientifiques. Nous sommes en direct avec deux d'entre eux, le physicien Stéphane Douady, qui nous fera partager son bonheur de toucher le réel et même d'écouter chanter les dunes de sable, et la syriologue tout-terrain Cécile Michel, qui s'attache avec enthousiasme à mettre le passé au service du présent. Passionnant et passionné, regard croisé de chercheurs de toutes disciplines et de tous horizons, autour de la question « La science rend-elle heureux ?» Bienvenue. Bonjour Geneviève Anoury.
Bonjour.
Bonjour Cécile Michel.
Bonjour.
Et bonjour Stéphane Douady.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager avec vos mots cette phrase de Victor Hugo dont vous vous êtes inspirée, Geneviève Anoury, pour ce livre d'entretien. Savoir, penser, rêver, tout est là Geneviève. Ou alors il faut en rajouter peut-être au bout de vos entretiens, rajouter l'émerveillement, la curiosité, la joie contagieuse de partager les savoirs et le plaisir aussi d'ouvrir toujours plus de questions, peut-être même plus que d'y répondre. D'ailleurs, je résume un peu vite, hein, mais c'est ce qui ressort au fil de ces entretiens.
Oui, je suis d'accord. Je pense que rajouter agir, peut-être à savoir penser et rêver, et puis d'en penser, je pense qu'il y a aussi une certaine forme d'esprit critique, et je pense que ça c'est important, rajouter ça.
L'esprit critique des chercheurs, la singularité aussi de chacun. Avec nous en studio, deux profils très différents, de chercheurs aussi passionnés et passionnants l'un que l'autre. Commençons par le physicien que vous êtes, Stéphane Douady, médaille d'argent du CNRS, directeur de recherche au laboratoire matière et systèmes complexes de l'Université Paris Diderot. Vous êtes spécialiste de la théorie du chaos. Mmh. Et vous vous êtes notamment intéressé au champ des dunes, vous allez nous en parler. Car pour vous, le bonheur en science, Stéphane Douady, c'est de toucher le réel. Toucher pour comprendre, c'est ça qui vous anime d'abord, c'est de comprendre.
Oui, d'abord j'estime que j'ai toujours été très heureux en fait de pouvoir chercher. J'ai toujours rêvé en fait, continuer à apprendre, et même là c'est plus qu'apprendre, c'est découvrir. Et pour moi, quand je dis toucher une réelle, c'est-à-dire que on peut dans ce que dit Victor Hugo, on peut avoir des idées, on peut rêver, on peut penser, mais on peut rester dans sa tête et donc un peu flotter, avoir des imaginaires. Et là, en fait, quand on fait de la recherche, on se frotte vraiment au réel. C'est qu'on se dit, est-ce que j'ai une idée? Est-ce que la réalité me répond oui ou non? On lui pose la question. Et là, quand on a une réponse, c'est vraiment un plaisir.
Un plaisir. En tout cas, ce sont à chaque fois de jolies leçons de vie, avec vous aussi, Cécile Michel. Alors, vous êtes assyriologue, c'est-à-dire que vous déchiffrez des textes qui n'ont pas été lus depuis l'Antiquité, directrice de recherche au CNRS, dans le laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité, à l'Université de Nanterre, professeur également à l'Université de Hambourg, en Allemagne. Vous êtes une assyriologue de terrain, sur tous les terrains, du Proche-Orient, et plus particulièrement en Turquie, mais aussi jusque dans nos banlieues, où vous vous régalez. C'est vous qui le dites, Cécile Michel, à faire des ateliers d'écriture cunéiforme. Le bonheur pour vous, Cécile Michel, c'est de mettre le passé au service du présent.
Oui, c'est fondamental parce que nous avons tous des racines et il faut essayer de comprendre d'où nous venons et quelles sont nos racines. Ce passé a été parfois instrumentalisé et donc il faut arriver à le réapproprier, le faire se réapproprier aux peuples qui en sont directement issus. Par exemple, aux peuples du Proche-Orient qui vivent dans des périodes de guerre depuis très longtemps. Et puis dans nos banlieues, aux petits-enfants d'immigrés aussi qui réapprennent leur propre passé.
Leur propre passé mésopotamien, des réalités aussi qu'on soupçonnait peu, on y viendra, sur la vie de ces femmes assyriennes, par exemple, assez libres. Et puis aussi, j'imagine qu'il y a la joie d'être la première à déchiffrer certains textes, la première à découvrir d'autres modes de vie et vraiment à les déchiffrer.
Alors, pour la syriologue, effectivement, la syriologue est historien et travaille sur des sources antiques. Et ces sources antiques, ce sont des tablettes cunéiformes qui sont conservées dans des musées, qui étaient enfouies dans les terrains où ils ont été retrouvés. Effectivement, contrairement aux sources grecques et latines classiques, qui sont des copies de copies de copies de copies de copies, nous avons accès aux documents directs et originaux.
Et vous pouvez toucher, hein, pour reprendre ce que disait
Stéphane Douady. Qu'on peut toucher, qu'on peut retourner dans tous les sens pour lire. Et nous sommes très très peu dans le monde, donc nous en avons encore des milliers à déchiffrer.
De ces tablettes d'argile. Autour de la question, la science vous rend-elle heureux? J'ai moi aussi, comme vous Geneviève, posé la question à quelques-uns de nos invités. On commence par le chronobiologiste Albert Goldbetter, qui toute sa vie a étudié les rythmes du vivant. Écoutez sa réponse.
En tout cas, faire de la recherche me rend heureux. Certainement, parce que c'est une activité merveilleuse, parce que elle nourrit constamment la capacité de s'émerveiller devant les beautés du monde. Et donc, je crois que la science est une démarche qui s'apparente très fort, d'ailleurs, à la démarche artistique, qui est dans la recherche du beau et dans la recherche constante de l'émerveillement.
La recherche constante de l'émerveillement, savoir regarder le merveilleux dans le quotidien, ça doit vous parler, ça, Stéphane Douady.
Oui, tout à fait. En fait, souvent, quand on sait des choses, on oublie de les regarder. Et moi, ce qui me fascine, c'est de trouver des choses qui sont là devant nous, qui nous entourent, et que personne n'a vraiment regardé, personne ne s'est posé la question, personne ne s'est émerveillé devant. Et ça, ça ouvre plein de choses.
Vous dites d'ailleurs qu'il faut démarrer, ce qui est étonnant, hein, pour un chercheur, vous êtes physicien, sans connaissance, tout bâtir par soi-même.
Tout à fait, essayer de retrouver un peu au contact des choses, retrouver qu'est-ce qu'on peut en penser et qu'est-ce que la chose nous dit. Parce que sinon, c'est pour ça que dans science, souvent, moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que les plus grandes découvertes sont faites par des étudiants qui connaissent rien ou des autodidactes. C'est-à-dire souvent des gens qui n'ont pas été formatés par tout un discours et qui on leur a pas appris comment est-ce qu'il fallait penser les choses et comment est-ce qu'il fallait les voir. Et par exemple, en botanique, je travaille beaucoup, il y a un chercheur qui est très connu et c'était un autodidacte pur. Et il a juste raconté ce qu'il voyait. Et ça détonnait complètement par rapport à tout ce que les gens avaient raconté avant.
Et ça permet aussi d'éviter les biais cognitifs, c'est-à-dire d'alerter vos étudiants sur la manière dont fonctionne notre cerveau. Et pour ça, vous les alertez avec un dessin animé, un manga japonais, Naruto, c'est ça?
Tout à fait, c'est que c'était en fait, c'est un dessin animé. Quand on fait de la recherche, malheureusement, maintenant, il faut faire des contrats. Et donc, je travaillais très tard la nuit à remplir un contrat. Et pour me rafraîchir l'esprit, je regardais ce qu'il y avait sur la télé et je tombe sur un dessin animé comme ça. Et après, je me rends compte qu'en fait, il racontait à travers une histoire de ninja imaginaire, il racontait plein de choses de comment on fonctionne, comment on réagit vis-à-vis d'une situation. Ils sont toujours en train de se battre, donc il faut réagir. Et là, je me suis rendu compte que ça disait énormément de choses sur la manière dont notre cerveau fonctionne et comment on réagit aux choses en fonction de ce qu'on a connu et en fonction de comment on voit les choses a priori. Et je me dis, ça, c'est effectivement quelque chose qui est très important dans la science et que j'essaie de faire avec mes étudiants. Et donc, je leur montre des épisodes maintenant comme ça en disant, voilà, regardez comment est-ce qu'en fait son passé a influencé sa réaction et que s'il avait changé de passé ou s'il s'était détaché de son passé, il pourrait se libérer et faire autre chose.
C'est ça, se libérer, la liberté, on va revenir, très important, et avoir un regard neuf, se fier à ses intuitions aussi, Cécile Michel. Le merveilleux, la démarche artistique des chercheurs, ça doit aussi parler à la syriologue que vous êtes. Il y a du plaisir, j'imagine, à déchiffrer ses écritures, à toucher ses plaques d'argile, à plonger comme ça dans ces alphabets, dans ces textes anciens que vous êtes la première à décrypter.
Il y a effectivement beaucoup de plaisir, surtout que je travaille sur des archives privées pour l'essentiel, et donc je rentre dans le quotidien des gens qui vivaient il y a 4000 ans au Proche-Orient.
Vous travaillez sur des archives privées de marchands, c'est ça ?
Des archives privées de marchands qui sont conservées, qui ont été découvertes en Turquie, puisque c'était des marchands qui avaient instauré un commerce international entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak et la Turquie, et qui avaient laissé leurs femmes et enfants en Irak, chez eux, et donc qui étaient séparés sur de longues périodes, ce qui a généré un courrier phénoménal.
Un courrier en tablette d'argile.
Un courrier en tablette d'argile, des lettres qui étaient mises sous enveloppe d'argile et envoyées, postées.
Et donc, il faut se décoller, c'est ça, hein, de la plaquette d'argile. Enfin, je le dis
alors,
mal.
C'est pas à décoller, on casse l'enveloppe. Comme on déchire une enveloppe, on casse l'enveloppe d'argile pour découvrir la tablette. Et donc, on a beaucoup de correspondances féminines, ce qui est assez rarissime pour une époque aussi reculée. Et donc, je rentre, on va dire, dans l'intimité des couples et des familles. Et c'est assez extraordinaire.
Et oui, parce que vous découvrez, enfin vous le dites en quelques mots, que les femmes assyriennes, les femmes qui écrivaient toutes ces lettres, les femmes des marchands, bah c'était elles parfois qui tenaient les cordons de la bourse, si je ne m'abuse. Enfin, en tout cas, bien plus autonomes que leurs contemporaines athéniennes.
Par nécessité, puisqu'elles se retrouvaient chefs de famille en l'absence des hommes de la famille, à devoir gérer le bâtiment, la maisonnée, à s'occuper des ancêtres, des enfants, et elles-mêmes faisaient du commerce, c'est-à-dire qu'elles tissaient des étoffes, qu'elles envoyaient à leurs époux, qui les vendaient sur les marchés, renvoyaient les bénéfices obtenus. Et avec ces bénéfices, ces femmes investissaient dans des sociétés en commandite et différents types de contrats.
Donc c'était des mamas de l'époque.
C'était des entrepreneuses.
Ouais, des entrepreneuses.
Voilà.
Rappelez-nous, il y a combien de temps
4000 ans.
Il y a 4000 ans entre Turquie, Irak, zone aujourd'hui Syrie, zone aujourd'hui terriblement frappée hein, par les conflits, par la guerre. En même temps, vous soulignez l'importance, même si c'est parfois compliqué, de réunir les chercheurs sur le terrain ensemble, archéologues, assyriologues, voilà, pour pouvoir partager vos recherches.
C'est quelque chose d'extrêmement important au niveau de la recherche parce qu'on a un peu tendance à chacun travailler dans son précaré et à étudier qui les assyriologues, leurs tablettes, qui les archéologues, leur terrain de fouille, etc. Et puis les sous-disciplines de l'archéologie et de l'histoire se sont extrêmement multipliées ces dernières années. Et donc c'est fondamental de réunir tout ce monde-là, éventuellement, ce qui est encore mieux, sur le terrain même, parce qu'on peut discuter directement en regardant. Donc je reviens à ce que Stéphane disait. On est dans les maisons de ces marchands, on regarde comment elles sont construites et on a les textes en tête. On peut dire, donner le nom des individus qui sont enterrés sous les tombes, sous le sol des maisons. Les
ah oui, c'est extraordinaire. Vous rentrez vraiment dans
leur vie. Et donc on fait revivre les gens d'autrefois dans leur propre maison.
C'est extraordinaire. Sauf qu'aujourd'hui, sur le terrain, c'est compliqué d'y aller. Vous êtes aussi maintenant président de l'Association internationale d'assyriologie. Vous avez donc aussi une responsabilité, si j'ose dire, dans ces déplacements. Enfin, voilà, ou même dans ces congrès, rencontres qui peuvent paraître un peu déplacées dans un pays en guerre, parfois.
Alors, pour l'Association internationale, je viens de passer la main, puisque les mandats sont de 4 ans. Mais j'étais effectivement très investie dans tous ces problèmes-là, surtout qu'en tant que représentant, l'essentiel de la discipline, puisque nous ne sommes que 450 dans le monde, donc c'est
dur.
Nous sommes une grande famille. Nous devions avoir une parole commune face aux événements qui se passaient au Proche-Orient. Donc nous avons fait plusieurs déclarations et surtout nous nous sommes dotés d'une charte éthique parce que c'est extrêmement complexe pour le chercheur qui travaille dans les pays en guerre ou les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme de savoir comment réagir dans certaines situations.
Oui, et de savoir comment dénoncer aussi certains trafics, j'imagine.
Absolument, bien sûr.
Les interrogations, en tout cas, sont toujours présentes. Les interrogations éthiques, mais aussi l'ouverture d'esprit, l'adaptation, hein, me paraissent indispensables quand on est chercheur pour être heureux. Comme Ulysse, on écoute une très jolie reprise de Brassens, version mondiale, par Karine Iglesias.
Teve uma bela viagem. Feliz quem, como Ulisses, viu finitas paisagens. E então reencontrou, após muito caminho.
Karina Iglesias reprend Brassens, heureux, qui comme Ulysse sur RFI. Autour de la question, la science rend-elle heureux? Regard croisé de chercheurs avec ce nouvel éclairage tout de suite du neuroscientifique Bassem Hassan, directeur scientifique de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière.
Au niveau très personnel, quotidien, oui, la science fait heureux. Après, comme tout, hein, il faut réussir à un moment donné, il faut devenir un peu calme des aspects dites économiques, sociales, etc., des aspects de business de la science. Il ne faut pas nier, il ne faut pas imaginer. L'idéalisme, c'est très bon. Je pense que la science reste plus idéaliste que d'autres, plein d'autres métiers, mais ça reste une métier humaine, une activité humaine et du coup, une activité politique, finalement. Mais moi, je dis souvent à mes docs et post-docs, écoutez, vous arrivez tous les jours, mais tous les jours, à regarder quelque chose, une petite chose, peut-être avec aucune importance dans le temps, mais tous les jours, vous voyez ou vous faites quelque chose où vous êtes la première personne de l'histoire de l'humanité de le faire. Ou peut-être vous voyez quelque chose et vous êtes la première personne de l'histoire de voir que cet neurone dans le cerveau d'une mouche de vinaigre fait X, Y ou Z. Cette vie à la frontière de la connaissance humaine en permanence, si ça n'est pas le drogue le plus addictif qui rend n'importe qui heureux, moi, je ne sais pas c'est quoi qui rend les gens heureux, honnêtement. C'est plus beau que l'amour, c'est plus beau que l'art, c'est plus beau que de toutes les choses.
Bel éclairage du neuroscientifique Bassem Hassan. Vous partagez, vous voulez réagir, Cécile Michel, à
cet éclairage? Je suis d'accord avec lui. Quand on fait une découverte, et notre métier de chercheur est rempli de découvertes, que ce soit des découvertes scientifiques, mais aussi des découvertes humaines, hein, quelle découverte que ce soit, effectivement, ça rend très très heureux.
Quand vous ouvrez comme ça une enveloppe, enfin quand vous cassez la plaque d'argile qui entoure ces enveloppes que vous étudiez en tant qu'assyriologue, il y a aussi, j'imagine, à chaque fois, hein, vous savez pas ce que vous allez y trouver, vous rentrez dans l'intimité de ces hommes et beaucoup de ces femmes qui vivaient
il y a des millénaires. Quand on lit leur courrier, leur correspondance privée, bien sûr, on rentre tout de suite dans leurs intimités et on découvre des choses extraordinaires. Et l'émotion aussi, puisqu'il y a beaucoup d'émotions, c'est être la première à lire ce texte qui n'a pas été lu depuis 4000 ans.
Ouais, ça doit être une émotion considérable. Et vous le disiez, vous êtes assez peu d'assyriologues dans le monde, en couvrant tous les continents, hein, Chine, Brésil...
En couvrant absolument tous les continents. Vous avez quelques individus par pays qui lisent ces textes.
Qui lisent ces textes de Mésopotamie, ces textes assyriens. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Bassem Hassan, qui était assez, enfin qui finalement balayait assez large.
Oui, tout à fait. Mais je voulais revenir aussi sur le commentaire. Oui. Et effectivement, il y a un côté idéaliste très beau dans la science. Moi, j'étais très idéaliste et ça m'a pris des années à comprendre qu'effectivement, comme il le dit, c'est aussi un milieu humain. Et donc, on a aussi besoin de négocier, de passer par des codes. Je dis, mais moi, c'est extraordinaire ce que j'ai découvert. Ça me rend heureux et ça devrait suffire. Ben non, des fois il faut passer un peu par des
beaucoup portes. De paperasserie, voilà, et beaucoup de négociations.
Des codes bien définis, des négociations. Mais à part ça, c'est vrai que le fait de découvrir, c'est une merveille permanente.
J'ai aussi envie de vous proposer un regard, comment dire, un peu plus mitigé ou plus précis sur la méthode scientifique. C'est l'éclairage de Francis Duranton qui dirige le Muséum de Toulouse. On l'écoute.
Je crois que la science, c'est une manière de percevoir le monde, c'est-à-dire c'est une manière d'interpréter le monde. La science, c'est une méthode. Est-ce qu'une méthode rend heureux? Je n'en suis pas sûr. Par contre, ce qui peut rendre heureux, c'est les résultats de l'application de la méthode. Voilà. Et c'est peut-être là qu'il y a la différence. La science en elle-même, elle ne rend pas heureux ou malheureux. La science, c'est une manière qui va nous permettre d'interpréter un certain nombre de données, de faits ou autres, qu'on va pouvoir regrouper, que ce soit d'ailleurs une science dure ou une science humaine et sociale, je veux dire. Et ce sont donc les résultats de la science qui peuvent rendre heureux, les résultats de l'utilisation de cette méthode, mais pas la méthode elle-même. Je n'ai jamais vu quelque méthode que ce soit qui rende heureux.
Geneviève Hanoury, vous voulez réagir à cet éclairage?
Oui, l'impression que j'ai, moi, après avoir interviewé beaucoup de scientifiques, c'est que le processus lui-même, le cheminement de la science, de la recherche, il y a un bonheur là-dedans, enfin, quelque chose qui rend heureux quand même si c'est pas tout le temps, évidemment.
Oui, c'est pas la méthode elle-même, mais c'est dans ce processus, dans ce chemin de recherche qui développe aussi, vous l'avez dit, l'esprit critique, hein, oui. Quand même. C'est quand même aussi un des points communs de tous les chercheurs. On les a pas cités, hein, que vous avez rencontrés, de Françoise Barré-Sinoussi à Jeanne Goudal, Étienne Klein, Lionel Nakache, Jean-Claude Amezen. C'est vraiment un point commun.
Oui, un point commun, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'émerveillement, le fait d'être passionné par ce qu'ils font et tout ça, mais il y a aussi une aridité, en fait, du travail lui-même qui demande une persévérance et puis...
Et
une ardeur en fait au travail, parce que je vois, c'est tous les scientifiques que j'ai rencontrés, ils travaillent énormément.
Oui, Stéphane m'a dit, je vous ai vu hocher un peu la tête en écoutant
Francis Duranton. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que justement, pour moi, la méthode, alors c'est peut-être pas la méthode qu'on peut la décrire de manière extérieure qui fait ce qui rend heureux, c'est le fait de l'appliquer soi-même et de traverser ce travail. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut, c'est effectivement se détacher de ce qu'on peut penser, se poser des questions, être critique. Est-ce que ce que je pense est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une autre interprétation? Est-ce que ce que je vois correspond à quelque chose? Et ça, ça permet de se détacher de ses propres idées et d'observer directement le réel. Et être capable de se détacher et de regarder les choses comme elles sont, indépendamment de ce qu'on pense, ça, fondamentalement, ça rend heureux.
Mais ça rend heureux, c'est tout le cerveau humain. Enfin, on est content quand on arrive à faire ça, à se passer dans cette position-là.
Parce qu'on découvre vraiment comment on est au monde, plus que comment on pense le monde, qui est complètement différent.
Cécile Michel ?
Oui, je pense que c'est tout le processus qui rend heureux, parce que si on avait la découverte directement, immédiatement devant nous, on n'aurait pas ce même plaisir. C'est tout le cheminement qui nous amène à cette découverte.
Et qui est parfois ardu,
ardu, et parfois on tombe sur des eaux et on a beaucoup de mal à avancer. Et il faut savoir s'échapper de ces moments-là et revenir plus serein. Et on va dire, le partage avec le grand public permet cet échappatoire.
Oui, c'est important ça aussi, de faire passer, du coup ça permet de vous arrêter et de faire passer ce que vous faites, Geneviève Anouri.
Je crois que aussi il y a un bonheur dans la transmission, d'après ce que j'ai pu voir aussi. Hein.
Le partage des savoirs et la transmission. Ouais. Alors par rapport aux découvertes et à la recherche, vous parlez, Stéphane Douady, de sérendipité. Alors, qu'est-ce que c'est que la sérendipité? C'est trouvé par hasard, mais pas vraiment par hasard. Hein.
C'est ça, c'est qu'on souvent on se pose déjà une question à l'avance. Et on n'y pense pas complètement. Mais ça prépare un peu la manière dont on perçoit les choses. Et tout d'un coup, quelque chose qui correspond à ce qu'on recherche nous apparaît.
Et c'est pas ce qu'on pensait trouver. C'est souvent autre chose.
Voilà. Enfin, on s'y attend jamais vraiment précisément. On n'a pas d'idée de ce qu'on va trouver, par exemple. Mais on est, comme disait Pasteur, la chance sourit aux esprits bien préparés. Se prépare son esprit. Et en fait, tout d'un coup, toc, si on laisse son regard ouvert et flotter, on voit apparaître ce qu'on recherche. Enfin, quelque chose qui correspond à ce qu'on cherche, qu'on n'imaginait pas, et qui du coup devient un passionnant.
Et en même temps, ça rejoint ce que vous disiez, Geneviève, c'est-à-dire que c'est vraiment constamment entre un travail pointu, ardu, de laboratoire, vraiment de fourmi, hein, j'ai envie de dire, vraiment. Et en même temps, arriver à s'échapper, à rêver justement, à penser autrement, à autre chose, pour que quelque chose en sorte de ce travail.
Une des premières qualités nécessaires, en fait, quand on veut être chercheur, c'est d'être capable de résister à l'échec. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit des étudiants très brillants qui ne supportent pas le premier échec. Et en fait, non, on est tout le temps en échec permanent quand on fait de la recherche. Et de temps en temps, ça marche. Alors là, c'est extraordinaire, mais il faut insister. On insiste en permanence.
Ça rejaillit, ça, dans la vie de tous les jours? Parce que Geneviève Anouri, c'est vraiment des leçons de vie, hein, qu'elle nous donne à lire dans ses interviews.
Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est un caractère, en fait. Hein. Ça s'applique à tout.
Cécile Michel, sur ces notions
je pense que pour rebondir sur ce que disait Stéphane, un bon remède pour aider à la persévérance, c'est la passion. Si on n'a pas passion, on n'est pas persévérant. Ouais. Et donc, tout ça, c'est une construction qui marche de pair. La sérendipité, oui, bien sûr. Je pense que le chercheur doit être ouvert à n'importe quelle découverte qui peut lui arriver fortuitement. Et une grande part de ces découvertes fortuites peut arriver avec l'échange avec les collègues, en fait.
Ah oui, il y a
très,
ça
très souvent. Mmh. Et cet échange, il est fondamental. Mmh. Donc, il y a une découverte scientifique, découverte, mais découverte aussi des autres chercheurs.
Ouais, c'est des aventures humaines aussi. Hein.
Moi, pour moi, la recherche, je suis en apprentissage permanent. Je suis une étudiante à vie et j'apprends au quotidien énormément de choses. Et j'aime énormément travailler avec des gens qui ne sont pas dans mon domaine. Parce que j'estime que j'apprends beaucoup et ça me force à penser autrement mes propres données éventuellement.
Mais avec des gens qui ne sont pas de votre domaine, mais qui sont tous aussi passionnés.
Absolument.
C'est ça, hein. Alors, parmi les musiques, qui vous inspire? Stéphane Douady, vous nous avez proposé d'écouter une flûte soufie. On vous propose d'y rajouter un peu de oud avec l'électrique soufie du jazzman tunisien Dafer Youssef sur RFI. chanteur et compositeur d'Affair Youssef, jazzman tunisien, et son oud qui nous électrise avec Électrique Soufi. Sur RFI, nous continuons de nous interroger en compagnie de la syriologue Cécile Michel et du physicien Stéphane Douadi. Autour de la question, la science rend-elle heureux? Question que vous avez posée, Geneviève Hanouri, à 12 éminents chercheurs dans un livre d'entretien inspirant, Savoir, penser, rêver, paru aux éditions Flammarion. Pour continuer de croiser les approches et les regards, je vous propose tout de suite d'écouter la réponse du paléanthropologue Pascal Pic, spécialiste de l'évolution des grands singes et des hommes, qui était récemment notre invité à la question « La science vous rend-elle heureux ?»
Ben oui, et ce bonheur que j'ai dans les sciences, découvrir un fossile dans mon domaine, ou ne serait-ce aussi qu'un jour d'avoir un échange de regards soutenu avec un chimpanzé. Vous imaginez pas le nombre de carrières que ça a pu faire. C'est ça, la science, c'est découvrir des mondes qui sont par-delà ce que François Jacob appelait notre réalité biologique. Nous avons hérité d'un spectre visuel, auditif, gustatif, etc. Et les sciences et les appareils, ça c'est depuis Galilée. C'est-à-dire que les sciences, c'est bien sûr observer, mais c'est aussi inventer des appareils et des moyens de modifier un peu la nature pour en révéler ses secrets. Et quand ça arrive, évidemment, ben le mot est là, c'est Eureka. Mais c'est pas Eureka. Être heureux en science, c'est se dire Eureka, j'ai tout faux et je vais redécouvrir des choses.
Le bonheur, c'est de recommencer. Qui veut réagir à cet éclairage de Pascal Pic?
Moi, je suis tout à fait Stéphane d'accord, Wedding. Par exemple, quand j'ai redécouvert le chant des dunes au Maroc, j'avais déjà entendu parler de ça, j'avais même entendu
un enregistrement. Alors qu'est-ce que c'est que le chant des dunes? Expliquez-nous.
Le chant des dunes, c'est, on voit dans le désert, il y a des très grandes dunes, et puis on a l'habitude de jouer dans le sable et faire couler du sable, et ça fait aucun bruit. Et là, tout d'un coup, sur une dune énorme, on fait couler du sable, il y a une avalanche, et il y a un bruit absolument énorme, très musical, très puissant, 110 décibels, qui peut apparaître.
Et ça, c'est un phénomène qui a été observé de longue date, mais qui était incompréhensible, inimaginable, et pas étudié, peu étudié.
Voilà, c'est un phénomène assez rare, il faut être sur le terrain, et donc il y a eu beaucoup d'histoires et de fantasmes autour de ça, mais assez peu d'études. Et justement, j'avais lu un article qui était excellent, parce que c'était un article qui disait « on ne comprend rien ».
On ne comprend rien à ces chants des dunes. Je vous propose d'en écouter un extrait pour nos auditeurs. Ça vous parle, ça, Stéphane Douadi? C'est une dune qui parle, qui chante, du sable qui chante?
On n'entend pas encore beaucoup.
Extrait du CD, Le Chant des Dunes.
Oui, c'est un son très grave aussi. C'est pour ça qu'il faut faire... C'est un beau... Ça peut être très...
Ça peut être comment?
Ça peut être très musical, comme une voix, ou même un peu bruyant, comme des bruits de moteur. Donc c'est très différent la manière dont on le sollicite. Et dans la redécouverte, moi, quand vous dites ça, c'est que j'avais vu cet article passé, je m'étais fait une idée de comment ça marchait. Je me dis, ça doit marcher comme ça. Bon. Et quand on est allé sur le terrain, d'abord, il y a toujours la magie d'être face à l'objet lui-même, plutôt qu'à l'idée qu'on s'en fait. Et c'est un son vraiment magique, qui est vraiment impressionnant. Et ensuite, je me suis rendu compte tout de suite que l'idée que j'avais n'était pas bonne.
C'est-à-dire que vous êtes physicien, vous réfléchissiez comme un physicien de la matière en grain, enfin quelque chose comme ça.
Et je me disais tout simplement, c'est la couche de grain qui grince sur la couche du dessous. Et en ce moment-là, on se rend compte que c'est pas vrai parce que le sable est très liquide. Et donc, après, on a passé tout l'après-midi à jouer et à se rendre compte que toutes les interprétations qu'on pouvait faire ne marchaient pas. Et donc ça, c'était absolument extraordinaire. On a trouvé quelque chose dont on n'avait aucune interprétation, aucune explication possible. Et ça, on est revenu content comme des rois, parce qu'on s'est dit, on est obligé d'inventer quelque chose de neuf.
Et vous avez inventé quelque chose de neuf.
Tout à fait.
Vous avez réussi à expliquer, à comprendre ce phénomène incroyable de chant des dunes, même qui ressemble pas à une cantatrice quand elle chante.
C'est celle du Maroc, qui chante très pure, donc on l'appelle la grande cantatrice. On a aussi l'orchestre symphonique à Oman, qui lui fait plus des cuivres. Mais...
Et alors, comment vous expliquez ça? C'est possible de nous faire partager ça à nous
Alors oui, là, la réponse, c'est que les grains, quand ils coulent, ils sont obligés de se passer les uns au-dessus des autres. Ils font du saut de mouton. Et d'habitude, ils sont empilés n'importe comment, et ils sautent n'importe comment, ils sautent tout dans le désordre. Et là, pour une raison qui reste encore un tout petit peu mystérieuse, on connaît les conditions, on ne sait pas vraiment pourquoi, tous les grains se mettent à monter en même temps et descendre en même temps. Et ça fait un mouvement cohérent qui fait ce son.
Et c'est ça qui fait ce son. Et du coup, de comprendre un peu mieux ce phénomène incompréhensible jusque-là, est-ce que ça enlève un peu à l'émerveillement? Parce que c'est complètement merveilleux, ce chant des dunes.
C'est souvent ce que les gens me demandent. En fait, non, pas du tout, parce qu'il y a toujours d'autres questions. Et ça ne permet pas, même si on a une explication rationnelle, on a toujours l'émerveillement de l'entendre en direct.
Cécile Michel, votre plus grand bonheur d'assyriologue, ce serait quoi ? Ou la plus grande question peut-être que vous soyez posée.
Il y a beaucoup de bonheur, mais oui. Il m'est arrivé souvent de rêver. Donc là, je travaille actuellement sur les archives privées d'une famille.
D'une famille, donc de marchands.
De marchands, dont je connais le papa, qui a laissé des archives.
Il y a quelques milliers d'années en Turquie.
Voilà, au 19e siècle avant Jésus-Christ.
19e siècle avant Jésus-Christ, oui, c'est ça.
Oui, oui. Et donc, le papa, qui était un marchand pas toujours heureux en affaires, a laissé des grosses dettes à ses enfants, à son fils et à sa fille. Ils écrivent beaucoup, beaucoup de courriers pour essayer de voir comment régler le problème. Et je suis obligée de faire des suppositions, parce que j'ai beaucoup de noms d'individus qui entrent dans ces textes, des situations. Quand on écrit une lettre, on n'explique pas le contexte.
Bien sûr.
C'est très elliptique pour les gens qui lisent le courrier des autres, puisqu'on n'est pas au courant de...
Un courrier expédié sur tablette d'argile il y a plusieurs millénaires.
Il nous manque le contexte. Donc on est si obligé d'échafauder des reconstructions, des hypothèses. Parfois on a un texte qui vient valider ou invalider nos hypothèses. Donc il m'arrivait assez souvent de rêver un retour en arrière dans le temps et d'écouter ces gens pour voir si j'avais raison ou pas.
Les rencontrer, les croiser, oui, parce qu'au fond, vous ne pourrez jamais vérifier absolument.
Exactement.
Hein. C'est ça, oui.
À moins d'avoir des textes qui sont découverts et qui nous donnent des solutions.
Ah oui, d'accord, d'autres textes. Est-ce qu'il y a des découragements aussi parfois ? Est-ce que ça fait partie ? Enfin, on a parlé des échecs qui sont fondamentaux finalement. Hein,
Mais oui, bien sûr, il y a des découragements quand on ne comprend pas un texte. Parce que tous les jours, en lisant de nouveaux textes, on tombe sur des signes nouveaux, des mots nouveaux. Et il faut se battre avec les syllabaires, avec les signes, avec les dictionnaires qui ne connaissent pas tous les mots qui sont, puisque c'est une écriture qui est en cours, et une langue en cours de déchiffrement.
Encore en cours de déchiffrement.
Oui, à
donc
chaque fois qu'on
pionnière,
on lit
ouais.
de nouveaux textes, on tombe sur de nouveaux textes, signes et de nouveaux mots. Donc forcément, nous sommes en cours de déchiffrement permanent.
Vous êtes en cours de déchiffrement permanent, mais on l'a bien compris, vous n'êtes pas du tout un rat de bibliothèque, parce que vous passez votre temps aussi, vous l'avez passé sur le terrain, en Turquie notamment, et puis dans des ateliers d'écriture que vous proposez à des jeunes, qui pourraient d'ailleurs, dans nos banlieues, être tentés par le radicalisme, c'est important pour eux de leur faire connaître cette très ancienne culture mésopotamienne au Proche-Orient.
Alors c'est très important, et les expériences, je vais dire, les plus belles, qui m'ont rendue le plus heureuse que j'ai eue, c'était dans les zones, ce qu'on appelle les REP aujourd'hui, qu'on appelait les ZEP autrefois, donc où les enfants ont beaucoup de difficultés à se mettre dans le moule de l'apprentissage classique, avec beaucoup, beaucoup d'enfants d'immigrés de première ou de deuxième génération, donc les parents ne parlant pas nécessairement le français à la maison. Et je leur offre la possibilité de s'approprier une autre forme d'écriture. Et là, tous les enfants sont dans la même situation, que ce soit des petits Français ou des petits étrangers.
Ah oui, il y a
ils
ça
sont
d'abord.
Face à un autre style d'écriture qu'ils doivent s'approprier. Alors, je facilite un peu les choses de façon phonétique pour essayer de reconstituer, par exemple, écrire leur propre prénom. Évidemment, pour les petits Français, c'est très, très difficile. Aller écrire en cunéiforme, en syllabaire acadien, françoise, tous les sons n'existent pas. Par contre, si vous écrivez Fatima, Ahmed, etc., c'est extrêmement facile puisque c'est une écriture qui a été utilisée par des langues sémitiques, entre autres.
Bien sûr.
Et donc, on retrouve tous ces... Donc, certains enfants arrivent beaucoup plus vite que d'autres. Qui
c'est
les
pas les mêmes que d'habitude.
Et c'est pas les mêmes que d'habitude. Et puis, quels que soient les enfants et leur origine, je leur apprends aussi comment les scribes allaient à l'école et apprenaient, puisqu'on a les textes scolaires d'il y a 4000 ans, l'école de Babylone, on sait très bien comment ça fonctionnait. Et je leur explique que cette époque-là, ils comptaient en base 60. C'est-à-dire qu'ils ne comptaient pas en base 10, mais en base 60. Et je leur demande, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose, un outil qui est utilisé ? Et ils me regardent avec des grands yeux et je leur dis, vous allez faire une table de multiplication en base 60 sur de l'argile en cunéiforme. Alors là, ils se disent que c'est impossible.
Oh là là, mon Dieu, au secours.
Je leur dis de regarder leur montre.
Ben voilà.
Voilà. L'heure est divisée en 60 minutes et 1 minute en 60 secondes. Ça vient dire tout droit de Mésopotamie.
Et ça nous apprend énormément de choses sur justement en Mésopotamie. On pouvait compter en base 60 et donc on savait aussi probablement compter le temps ou compter.
Bien sûr, on comptait le temps. Ils avaient on a retrouvé énormément de textes mathématiques dont certains nous montrent qu'au 18e siècle avant Jésus-Christ, on avait déjà la notion des triplets de Pythagore, c'est-à-dire que c'est des choses assez extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de résoudre des équations du second degré, ils étaient capables de calculer des surfaces ou des volumes complexes. Donc oui, c'est très avancé. Mais ce qui est important, c'est donc on va dire, insérer un petit peu d'histoire dans les programmes scolaires, parce qu'on vous assène, quand vous êtes tout petit, que voilà, l'heure c'est comme ça, mais on ne vous explique pas pourquoi.
Mm-hmm. Et puis on vous enseigne aussi que tout a commencé en Europe, mais on ne vous explique pas pourquoi non plus.
Non plus, donc c'est très important, à mon avis, et ça permet aux enfants de mieux comprendre et du coup, de mieux apprendre.
Pour le coup, ça, effectivement, ça ouvre l'esprit, Geneviève Hanouri.
Oui, je pense, par rapport à l'enseignement, ce serait tellement important de relier même les mathématiques aux histoires des mathématiciens, les sciences. Enfin, ça changerait tellement le point de vue, ce serait tellement plus drôle, ce serait tellement plus captivant pour les enfants. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de culture scientifique. Je pense, pour les enfants, pour tout le monde, pour que même les citoyens puissent voter des choses de manière intelligente et avec une perspective.
Une réflexion,
vraiment
c'est important aussi aujourd'hui, aussi, à l'époque des fake news, à l'époque de la manipulation.
Exactement. Et aussi même dans la classe politique, tous les politiques devraient avoir une culture scientifique. Ils ont surtout une culture littéraire en France, en fait. Et c'est dommage.
Stéphane Doidy, le physicien que vous êtes, doit abonder dans ce sens-là, la culture scientifique ou d'aborder la physique d'ailleurs, la touchant.
Mais les histoires humaines aussi, c'est passionnant.
Effectivement,
à mes étudiants, quand je raconte quelque chose, une expérience, je raconte d'abord l'histoire de la personne qui a trouvé l'expérience. Et ça, on apprend des choses fascinantes. Et on se rend compte pourquoi se poser la question, comment est-ce qu'ils l'ont vu. Et ça ouvre une perception complètement différente.
Oui, d'un seul coup, ça devient
vivant.
Ça devient vivant et proche. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu ce que vous avez voulu faire, Geneviève, justement, dans ce livre, parce qu'à chaque fois, ce sont vraiment des leçons de vie, hein, de Jean-Claude Amezen, d'Étienne Klein, de Françoise Barrécine aussi, d'éditeurs, de Jeanne Goudal, grande primatologue. C'est un peu des leçons de vie parce que finalement, ils nous font partager leur joie de faire de la science, leurs échecs, leurs sensations. Et du coup, ça ouvre clairement.
Ouais, exactement. En fait, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai eu envie d'aller les interroger. C'est que, encore plus, alors, on essaye de trouver autre chose que le leçon de vie. Parce admonestation, on va vous.
C'est pas des leçons.
On n'est pas avec un fouet derrière en train d'essayer de faire rentrer des idées. C'est vraiment une notion de partage. Et en fait, ils ont joué vraiment le jeu. Ils ont tous, enfin, vous êtes là, mais voilà, tous les autres aussi, tout le monde a vraiment partagé son vécu, à parler de façon très personnelle et aussi voilà, avec des réflexions différentes et donner même des sortes de conseils. Il y a un côté feel good, si vous voulez, il y a un côté voilà, joie de penser, passion, mais il y a aussi quelque chose de, comment dire, par exemple avec Jane Goodall, l'activisme, voilà, qui veut agir, et tous ont un esprit critique, enfin je veux dire, voilà, c'est très important de enfin je pense que
ça peut plaire, ils sont conscients du monde dans lequel on vit et des questions aussi que la science pose et soulève aujourd'hui,
hein. Et ça enrichit notre propre rapport au monde, en fait. Je pense que c'est très important, ça aussi, personnellement mais aussi intellectuellement, pour pouvoir penser le monde d'une manière plus
riche. Et puis le rêver, celui à venir aussi, hein, ça serait bien de continuer à rêver. D'ailleurs, dans ce livre, il y a aussi cette expression que vous employez, je ne sais pas si c'est vous, Stéphane Doidy, qui l'employez, de faire un pas de côté, enfin d'avoir un peu, oui, une attention flottante pour chercher, pour trouver. Enfin, c'est aussi de ne pas être trop impliqué.
Ouais, je crois que quand on a une question qui nous taraude, en fait, et tous parlent de ça, je pense, on est tout le temps. En attention flottante, un peu comme disent les psychanalystes sur cette question. Et du coup, cette sérendipité, le pas de côté, le fait de parler avec des scientifiques qui sont d'autres domaines, ça permet d'avoir des idées qui sont plutôt sur le côté des routes, là où il y a les coquelicots, plutôt qu'au milieu, dans le mainstream.
Oui, c'est d'avoir un peu d'autres idées. C'est un peu aussi ce que vous apporte, j'imagine, ces ateliers, l'impression que d'un coup, vous rendez vraiment à des jeunes qui n'auraient pas ces savoirs-là, vous faites passer ces savoirs-là et des pistes pour eux pour la suite.
Alors, j'ai ces ateliers, mais j'ai une autre expérience qui, à mon avis, me rend tout aussi heureuse. Je participe en tant que membre encadrante, hein, avec d'autres chercheurs, enseignants-chercheurs, à la Maison d'initiation et de sensibilisation de Paris-Saclay. Et là, ce sont des doctorants en mission doctorale qui animent les ateliers que nous avons conçus. Et pour animer ces ateliers, un atelier sur les premiers nombres, les premiers calculs numériques et sur la Mésopotamie ancienne, je forme des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des écologistes et des biologistes qui chaque année prennent en charge les classes qui viennent visiter cette maison d'initiation aux sciences. Et donc là, mon bonheur est décuplé parce que je transmets à des gens dont c'est absolument pas le métier ni le champ de recherche, etc., qui vont ensuite à leur tour transmettre à des plus jeunes. Donc là, c'est aussi une expérience qui est absolument merveilleuse.
Autour de la question « La science rend-elle heureux ?», j'ai aussi eu envie de poser la question à un autre chercheur qui lui a trouvé, c'est le géomorphologue Laurent Brussel. Il a daté Littlefoot, c'est le plus ancien squelette d'Australopithèque découvert à ce jour dans une grotte d'Afrique du Sud. Il a révolutionné du coup toute la chronologie de notre évolution. Écoutez sa réponse à la question « La science vous rend-elle heureux ?».
Moi, je pense qu'elle rend heureux à partir du moment où elle répond à des questions que l'on se pose. Mais en retour, elle façonne une curiosité. Et donc, finalement, la soif donne soif de science. Et la science donne soif de science. Et donc, plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Alors, elle peut rendre malheureux quand on préfère croire. Et quand, effectivement, on n'a pas envie forcément de se poser des questions. Et donc, on reste un peu dans ce confort de croire plutôt que de savoir. Se poser les questions, c'est déjà quand même faire un petit effort de curiosité, de recherche d'informations, mais qui du coup peut être en retour assez satisfaisant, parce qu'on va comprendre, parce qu'on peut aller plus loin, parce qu'on peut affiner les questions. Et enfin, la science rend aussi heureux le chercheur qui, lui, va essayer de trouver les réponses à ses questions, va travailler, progresser, et malgré tout, chaque élément de réponse est à chaque fois une grande source de joie et donc de bonheur.
Une découverte comme celle de Littlefoot que vous avez réussi à dater, le plus ancien et le squelette le plus complet d'Australopithèque connu à ce jour, Laurent Brussel, ça rend heureux ?
Ça rend heureux. Alors quand on commence à travailler dessus, qu'on se pose beaucoup de questions, on n'est pas forcément heureux, on est plutôt anxieux de savoir est-ce qu'on va réussir à répondre aux questions. Et puis il y a pas mal de pression autour, évidemment. Quand on commence à apporter des éléments de réponse qui correspondent déjà à ce que imaginaient les autres personnes avec qui on travaille, on est heureux, mais surtout quand on prend un petit peu de recul et qu'on voit que ce qu'on est en train de faire sera peut-être un jour dans les livres d'histoire et contribue à façonner finalement la connaissance générale, notamment sur l'évolution du monde, là on est heureux et on est fier aussi.
Fier aussi, c'est sur ce mot de fierté que j'ai envie de vous faire réagir. Geneviève Anouri, tous les chercheurs que vous avez rencontrés, ils ont un côté très humble, ils sont fiers aussi, parce qu'ils peuvent l'être. Hein.
Oui, pour moi, il y a une forme d'héroïsme en fait.
Carrément. Heureusement que c'est vous qui le dites, c'est pas les chercheurs ici.
C'est-à-dire qu'en fait, ils se tiennent quelque part au bord d'un inconnu, ils sont tout le temps au bord de la connaissance. Et bon, c'est passionnant, tout ça, mais en même temps, c'est formidable de s'oublier aussi et puis d'avoir une telle curiosité, d'essayer de comprendre à ce point. Je trouve qu'il y a une forme d'héroïsme.
Nos héros, on va s'adresser à nos héros du coup, par qui je commence. Stéphane Douady, alors, vous êtes fier de vos recherches, de vos découvertes, de ces...
Pas tellement en fait, parce qu'effectivement je pense que c'est un peu un aveuglement. Les premières fois, j'étais très content. La première fois, j'ai fait une prédiction qui était vraie, j'étais très fier. Puis après, bon, on s'habitue en fait. Et c'est surtout que c'est plutôt continuer à avancer. Mmh. Et si on est vraiment fier, à un moment, on s'arrête, on dit ouais, j'ai réussi à faire quelque chose qui va rester dans un livre. Et voilà. Et à ce moment-là, c'est un côté orgueilleux qui, à mon avis, nous aveugle un peu.
Pouvoir réussir à avancer, vous préférez quoi comme mot
Plutôt la prise de risque, effectivement. La prise de risque permanente. Et c'est là où on est plus proche des artistes. C'est-à-dire qu'effectivement, un artiste, quand il trouve une méthode d'expression, en fait, il ne va pas y rester. Il va essayer d'en trouver une autre. Sinon, ça devient du maniérisme. Et nous, les scientifiques, c'est pareil. Quand on trouve quelque chose, en fait, il faut arriver à tout abandonner et reprendre des risques et remettre tout à plat et recommencer, et ainsi de suite.
L'humilité du héros, moi, je dirais ça comme ça, hein, Stéphane Douady. Et vous, Cécile Michel, notre héros du jour.
Je vais dans la même direction, mais le mot que j'aime employer, c'est le doute. Un chercheur qui ne doute pas n'avance pas. Et pour moi, c'est fondamental de douter en permanence.
Mmh. Et la science, c'est le doute. Hein.
Oui.
Geneviève ?
Et est-ce que peut-être, justement, au départ, dès qu'on a, disons, résolu quelque chose ou trouvé quelque chose, est-ce que vous n'êtes pas de nouveau au pied du mur, comme pour une première fois ou comme un nouveau projet artistique ? Quelque part, on repart toujours un peu à zéro, sauf que, bien sûr, les scientifiques, ils ont cet escalier sur lequel ils peuvent s'appuyer, que ce soit leur propre connaissance ou la connaissance de tous les autres scientifiques, tout ce que ça a apporté. Alors que les artistes, bon, c'est différent, il n'y a pas de valeur.
Est-ce que finalement, c'est une question que vous vous posez à Cécile et à Stéphane, est-ce qu'à chaque fois, il faut tout recommencer quand on a...
Bien non, parce qu'en fait, on ne travaille jamais sur une œuvre à la fois. Pour moi, j'ai pas mal de terrains de recherche et d'études. Et donc, quand par hasard, je pense, mais j'ai jamais complètement fait le tour de l'un d'entre eux, mais quand je pense avoir consacré suffisamment de temps et avoir eu suffisamment de résultats sur l'un, j'en ai encore quatre autres à côté à résoudre en permanence.
Et puis vous n'aurez jamais donc, en direct les auteurs de ces lettres, donc il reste des points d'interrogation. Et vous, Stéphane ?
Moi, je suis d'accord, j'ai aussi beaucoup de casseroles sur le feu, et quand il y en a une qui ne bout pas, j'en prends une autre. Mais j'aime bien remettre en cause les choses et changer de domaine. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec d'autres disciplines. C'est de quand on sait vraiment faire quelque chose, par exemple, je sais faire des modèles non linéaires, bon, très bien, ben ça n'a plus aucun intérêt. Parce qu'effectivement, bon, je pourrais résoudre des problèmes, et alors ? Et ça ne répond plus à une question ou un besoin. Et en fait, le vrai besoin que j'ai, c'est de réapprendre quelque chose et de recommencer à zéro, de dire, voilà, ça je ne sais pas, comment est-ce que je vais faire ? Et donc, changer complètement de sujet, ou avoir des sujets complètement différents, avec d'autres domaines différents, ça, c'est vraiment un plaisir.
Merci infiniment pour toutes ces inspirations, toutes ces leçons de vie, même si, hein, on est d'accord, ce n'est pas une leçon assénée. En tout cas, c'est à partager sans modération dans votre ouvrage Geneviève Hanoury, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Savoir, penser, rêver, 12 leçons de vie des plus éminents chercheurs, Françoise Barré-Sinoussi, Étienne Klein, Jane Goodall, Hubert Reeves, et bien sûr vous deux, Stéphane Douady et Cécile Michel. Merci d'avoir participé en direct à notre propre bonheur. Ça fait du bien, surtout par les temps qui courent. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tsikounas en coulisses. Autour de la question, pourquoi et comment nous mettre dans la tête de nos ancêtres jusque dans leurs gestes. Piste de réponse d'archéologie expérimentale in situ dans un reportage signé Charlie Dupio. À suivre lundi. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans un peu plus d'une minute.